Du pain sur la table.
Dialogue autour de l'Évangile avec André Choquette
et Georges Convert.
Évangile de Jésus selon l'écrit de Luc, texte de la liturgie catholique romaine pour la vigile pascale. Le premier jour de la semaine, à l'aube profonde, les femmes viennent à la sépulture. Elles apportent les aromates qu'elles ont préparés. Elles trouvent la pierre roulée de devant le sépulcre. Elles entrent et ne trouvent pas le corps du Seigneur Jésus. Alors, comme elles ne savent pas quoi faire et penser de cela, voici que deux personnes se présentent à elles, habillées de lumière étincelante. Elles se mettent à frémir. Elles tiennent leur visage incliné vers le sol. Ils leur disent
« Pourquoi cherchez-vous le vivant parmi les morts? Il n'est pas ici, mais il est ressuscité. Souvenez-vous comment il vous a parlé quand il était encore en Galilée. Il disait du Fils de l'homme qu'il lui faut être livré aux mains des pécheurs, être crucifié et se relever au troisième jour. »
Alors, elles se souviennent de ses paroles. Revenues du sépulcre, elles annoncent tout cela aux 11 et à tous les autres. Il y a Marie la Magdalène, Jeanne et Marie, mère de Jacques, et leurs autres compagnes. Elles disent cela aux apôtres. Mais ce qu'elles disent leur semble du délire et ils ne les croient pas. Mais Pierre se lève et court au sépulcre. Comme il se penche, il voit les bandelettes seules. Il revient chez lui, étonné de ce qui est arrivé.
Chers auditeurs et auditrices, bonjour. Bonjour André.
Bonjour Georges. Dans cette douzaine de versets de l'écrit de Luc, se trouve décrit le moment le plus important de l'histoire humaine. En effet, ou bien ce texte est un poème fruit de l'imagination des disciples de Jésus, ou bien nous nous trouvons devant l'événement central de l'histoire, la résurrection de Jésus de Nazareth, fils premier-né du Père divin.
Regardons le contexte. Nous sommes au début du chapitre 24 de Luc, qui est le dernier de son récit. Dans ce chapitre se trouvent rassemblées quatre scènes importantes. L'annonce de la résurrection qui est faite aux femmes, la manifestation du ressuscité aux deux disciples sur la route d'Emmaüs, la rencontre de Jésus avec les 11, et enfin la séparation définitive qui se situe vers Béthanie. Il semble que ces quatre moments se vivent tous dans la même journée. On devine que c'est là un procédé symbolique. Luc veut sans doute inscrire ces faits qui marquent le début d'un temps nouveau de l'histoire, ou bien dans le jour du Seigneur, ce que nous appellerons le dimanche, ou bien dans ce qu'on appelle dans la Bible le troisième jour, c'est-à-dire le jour des derniers temps. On expliquera tout à l'heure le sens de ces symboles. Notons pourtant que le même Luc donnera des données différentes dans son deuxième livre, qu'on appelle les Actes des Apôtres. En effet, là, il parlera alors de 40 jours entre la résurrection et l'ascension. Et sans doute que ce chiffre 40 doit être aussi compris comme un symbole, le temps nécessaire à l'initiation des disciples à l'enseignement du ressuscité.
C'est aux apôtres que Jésus s'était présenté vivant après sa passion. Ils en avaient eu plus d'une preuve. Alors que pendant 40 jours, il s'était fait voir d'eux et les avait entretenus du règne de Dieu.
Au début, les premiers chrétiens célébreront d'ailleurs en une seule fête la résurrection et l'ascension. Il faudra attendre la fin du IVe siècle pour qu'on fasse de l'ascension une fête particulière.
Le premier jour de la semaine à l'aube profonde.
Les femmes devaient attendre la fin du repos du Shabbat pour se rendre au tombeau. Il semble qu'elles soient parties de nuit, et cela peut suggérer qu'elles sont aussi, spirituellement, dans la nuit, puisque leur maître si cher est dans le tombeau, parti pour le pays de l'ombre et de la mort. Ce sera dans cette obscurité de la mort que vont briller, comme l'éclair, les deux messagers porteurs de la lumière de la résurrection. Les premiers chrétiens se réuniront à la fin du Shabbat et passeront la nuit dans la prière,
attendant l'aube pour chanter l'Alléluia de la résurrection. Et on appellera ce jour le jour du Seigneur, en latin, Dies Dominicus, qui deviendra plus tard par contraction Diominica et donnera en français dimanche.
Les femmes viennent à la sépulture. Elles apportent les aromates qu'elles ont préparés.
C'était en effet la fonction des femmes d'embaumer le corps des morts. L'embaumement n'avait pas été complété le vendredi, car le Shabbat approchait. On sait en effet que la coutume juive est de faire commencer la veille la fête avec l'apparition de la première étoile. Les femmes viennent au sépulcre et le mot grec qui est utilisé signifie « le souvenir ». Et nous employons également en français le mot « mémorial » pour désigner un monument aux morts. Il n'y a plus en effet pour elles qu'un souvenir de celui qu'elles ont suivi comme leur maître.
Elles trouvent la pierre roulée de devant le sépulcre.
Les tombeaux étaient en général des cavités qui étaient creusées dans le roc ou aménagées dans des grottes. L'entrée souvent était basse et fermée par une grosse pierre ronde qui pouvait être roulée pour dégager l'orifice. À l'intérieur, il y avait comme des banquettes de pierre, parfois sur plusieurs étages, pour recevoir les cadavres. Pour une certaine tradition juive, les cimetières symbolisaient le Shéol, c'est-à-dire le lieu où les défunts descendent dans l'attente de la résurrection. Un tombeau fermé par cette lourde pierre manifeste donc que la mort a enfermé la vie. Mais la pierre roulée et le tombeau ouvert peuvent signifier symboliquement que le mort est remonté du Shéol et donc que la vie a vaincu la mort.
Elles entrent et ne trouvent pas le corps du Seigneur Jésus.
Le souvenir du défunt n'est donc plus ici. L'appellation « Seigneur Jésus » est unique dans le récit évangélique de Luc. Elle sera au contraire courante dans son deuxième volume « Les Actes des Apôtres ». Dieu l'a fait « Seigneur et Messie, ce Jésus que vous avez crucifié ». Et ce sera ce titre de Seigneur Jésus, le titre donné au ressuscité par les chrétiens. Le mot « Seigneur » est le mot qui désigne Dieu lui-même dans la traduction grecque de la Bible. C'est le « Kyrie », « Kyrios », qui traduit le mot juif « Adonai ». Le mot juif d'ailleurs qui veut dire « Maître ». Luc veut-il suggérer que Jésus est maintenant dans la gloire, c'est-à-dire dans l'amour de Dieu, qu'il est maintenant associé, uni au Père qui est le Maître du ciel et de la terre? Paul traduira cela maintes fois dans ses lettres. Écoutons ce qu'il dit dans les Romains et dans les Philippiens.
Cet évangile concerne son Fils issu selon la chair de la lignée de David, établi selon l'Esprit Saint, Fils de Dieu, avec puissance de par sa résurrection d'entre les morts. Jésus, Messie, notre Seigneur. Dieu lui a conféré le nom qui est au-dessus de tout nom. Jésus est le Seigneur. Alors, comme elles ne savent pas quoi faire et penser de cela, voici que deux personnes se présentent à elles, habillées de lumière étincelante.
Luc souligne avec force le désarroi des femmes. Elles sont loin de s'attendre à la résurrection. Ni la pierre roulée, ni l'absence du corps ne les ont conduites à penser que Jésus est ressuscité. C'est peut-être pour dire que cette résurrection ne peut pas être le fait de la réflexion humaine. Elle est révélée par Dieu, ce que signifie symboliquement la présence de ces deux êtres de lumière, qui sont des messagers de Dieu. Nous voici donc au cœur même du récit. Dieu annonce à ces femmes la victoire de Jésus sur la mort.
Elles se mettent à frémir. Elles tiennent leur visage incliné vers le sol. Ils leur disent, « Pourquoi cherchez-vous le vivant parmi les morts? Il n'est pas ici. » Mais il est ressuscité.
La réaction des femmes, le visage incliné vers le sol, est celle qui est habituelle dans la Bible devant la manifestation du divin. Souvenons-nous que dans l'Exode, lorsque Moïse entend la voix divine jaillir du buisson en feu, il se voile le visage car il craint de regarder Dieu. Par ses messagers, c'est donc Dieu, le maître de la vie, qui témoigne que Jésus est maintenant le vivant, qu'il est vainqueur de la mort. Ce titre, le vivant, sera un de ceux que les premiers chrétiens donneront à Jésus ressuscité. Ainsi, dans un discours sous les portiques du temple, Pierre va s'écrier
« Le prince de la vie que vous aviez fait mourir, Dieu, l'a ressuscité des morts. Nous en sommes témoins. »
Et évoquons aussi ce que le livre de l'Apocalypse dit pour décrire le Fils de l'homme qui est Jésus.
« Je suis le premier et le dernier, le vivant. Je fus mort, et voici, je suis vivant pour les siècles des siècles, et je tiens les clés de la mort. »
Pour traduire cette nouvelle vie qui est celle de Jésus, le vocabulaire chrétien parlera de résurrection. Le mot « ressuscité » pourrait être aussi bien traduit par « il s'est relevé » ou « il s'est réveillé du sommeil de la mort ». Le verbe grec, qu'on traduit habituellement « ressuscité », comporte ces deux images. Et le verbe est au passif, il est réveillé, il est relevé, pour souligner que c'est Dieu lui-même qui ressuscite, c'est Dieu qui réveille Jésus du sommeil de la mort, qui le relève. Il ne faut donc plus chercher Jésus dans ce lieu de la mort, il n'est pas ici. Il faudra chercher Jésus parmi les vivants, les gens qui sont debout, relevés, et cela est valable désormais pour tous les temps. Au Saint-Sépulcre de Jérusalem, à l'emplacement supposé du tombeau de Jésus, les pèlerins d'aujourd'hui peuvent en effet voir cette inscription « Il n'est pas ici ». Jésus est désormais le compagnon qui chemine avec tous les pèlerins du monde, comme il l'a fait pour les deux disciples qui marchaient vers Emmaüs. Et il se trouvera tout particulièrement sur les chemins avec les sans-abri, les malades, les prisonniers, les esselés, comme il l'a dit dans la parabole du jugement dernier.
Souvenez-vous, comment il vous a parlé quand il était encore en Galilée. Il disait du Fils de l'homme qu'il lui faut être livré aux mains des pécheurs, être crucifié et se relever au troisième jour.
Au lieu de se souvenir du cadavre de Jésus, les femmes sont donc invitées à se souvenir des paroles du Maître. Ce sont ces paroles-là qui auraient dû conduire les femmes et les autres disciples à l'attente de la résurrection. Luc soulignera à plusieurs reprises dans son évangile que c'est la parole des Écritures, et maintenant la parole de Jésus, qui peuvent nous conduire à comprendre le sens à la fois de la mort, mais aussi de la résurrection. Ainsi, lors de la transfiguration, c'est Moïse et Élie, qui représentent les Écritures, la Torah et les prophètes, qui viennent éclairer le sens de l'exode de Jésus, c'est-à-dire de son départ et de sa mort. Dans une parabole, celle du riche et du pauvre Lazare, Jésus nous dit qu'il faut mettre en pratique les Écritures saintes pour comprendre la résurrection.
S'ils n'écoutent pas Moïse ni les prophètes, même si quelqu'un ressuscite des morts, ils ne seront pas convaincus.
Et aux deux disciples d'Emmaüs, le ressuscité va faire découvrir, à partir de la Torah et des prophètes, le sens de sa mort.
Ne fallait-il pas que le Christ souffrît cela pour entrer dans sa gloire? Et parcourant Moïse et les prophètes, il leur explique dans les écrits ce qui le concernait.
Lorsqu'il va se manifester aux onze, le ressuscité dira encore « Il faut que s'accomplisse tout ce qui a été écrit de moi dans la Torah de Moïse, les prophètes et les psaumes. » Mais à quel passage des écrits bibliques est-il fait allusion? Eh bien, sans doute, principalement, au serviteur souffrant dans le livre du prophète Isaïe, cet homme juste qui livre sa vie pour les fautes des êtres humains. Citons quelques lignes de ce texte si important.
Il était méprisé, laissé de côté par les hommes. Ce sont nos souffrances qu'il a portées. Il n'ouvre pas la bouche comme un agneau traîné à l'abattoir. Ayant payé de sa personne, il verra une descendance et sera comblé de jour.
À côté de ce texte du serviteur souffrant, on peut aussi songer à un autre texte du prophète Osée qui parle de ce troisième jour, qui est un terme symbolique.
« Au bout de deux jours, il nous aura rendu la vie. Au troisième jour, il nous aura relevés et nous vivrons en sa présence. »
Au temps de Jésus, ce troisième jour était compris comme le jour des derniers temps, le jour où Dieu triomphe définitivement des puissances du mal et de la mort, celui où il fait revivre les morts. Le troisième jour, c'était donc le jour de la résurrection finale.
En unissant ces deux textes, celui d'Isaïe sur le serviteur souffrant et celui d'Osée sur le troisième jour, se dessine le projet de Dieu tel que Jésus le réalise. Face aux puissances du mal, seul l'amour peut être le moyen de vaincre. Celui qui accepte de livrer sa vie plutôt que de choisir les moyens de la violence, celui-là est fidèle à l'esprit de Dieu qui n'est qu'amour. Livrer sa vie, c'est en effet vivre le pardon jusqu'au bout. Le pardon qui est le geste ultime de l'amour pour guérir les cœurs de tout le mal qui les blesse à mort. Celui qui meurt dans l'amour, Jésus, celui qui meurt d'amour, celui-là garde vivante en lui jusqu'au bout toutes les forces de vie. Et lorsque Dieu le ressuscite, il le ressuscite en lui redonnant ce souffle de vie et d'amour qu'il a remis entre ses mains. Dieu lui donne alors de continuer à être vivant pour toujours, d'une vie immortelle qui a vaincu le mal. La résurrection, ce n'est donc pas le retour à la vie actuelle. Ce n'est pas la réanimation d'un cadavre. La résurrection de Jésus n'a rien à voir avec le retour à la vie de la fille de Jaïr, ou du fils de la veuve de Naïm, ou de Lazare, le frère de Marthe et de Marie. Ceux-là, en effet, mourront à nouveau. Alors que l'apôtre Paul affirme, Christ ne meurt plus.
Le Christ, une fois ressuscité des morts, ne meurt plus. La mort n'exerce plus de pouvoir sur lui.
Oui, Jésus vit maintenant autrement, d'une vie immortelle qui est le don de Dieu, qui est l'entrée dans la gloire de Dieu, c'est-à-dire l'entrée dans la plénitude de l'amour de Dieu.
Revenue du sépulcre, elles disent cela aux apôtres. Mais ce qu'elles disent leur semble du délire, et ils ne les croient pas. Mais Pierre se lève et court au sépulcre. Comme il se penche, il voit les bandelettes seules. Il revient chez lui, étonné de ce qui est arrivé.
Les récits évangéliques ne peuvent mieux nous souligner la difficulté à en croire en la résurrection. Le récit de Jean dira « Il n'avait pas compris l'Écriture » selon laquelle Jésus devait se relever d'entre les morts. Pierre revient tout étonné, il n'a pas encore compris le sens de la croix. On se souvient qu'il s'est objecté au projet de Jésus. « Non, cela ne t'arrivera pas, Seigneur, tu ne peux pas aller comme ça à la mort. » Pierre a-t-il saisi ce qui s'est passé sur la montagne de la Transfiguration? A-t-il compris ce que voulait dire la présence d'Élie et de Moïse? Son triple reniement maintient-il encore ses yeux empêchés de comprendre? Pour lui, comme pour les disciples d'Emmaüs, l'événement Jésus n'est-il pas terminé? Pense-t-il que celui qui l'a suivi comme le chemin de la vérité et de la vie ne les a conduits qu'à la mort? Que celui en qui il a vu le Messie n'était en fait qu'un rabbi attachant, certes, mais que Dieu a abandonné? Le maître qui a dit « Je suis la vie » n'est-il pas désormais mort? Comment les paroles de Jésus et des écrits bibliques pourront-elles conduire Pierre à confesser « Le Seigneur est vraiment ressuscité » Pour cela, le ressuscité devra-t-il se faire voir? La suite du récit de Luc nous dit en effet qu'il est apparu à Simon, et Paul le confirme dans la lettre aux Corinthiens. Il est apparu à Céphas, Pierre, puis aux douze. Mais peut-être faudra-t-il, pour vraiment faire venir Pierre à la foi en la résurrection, que les paroles bibliques se mettent à vivre dans la vie de Pierre. Dans le récit de Jean, le ressuscité demandera à trois reprises à Pierre, « Pierre, m'aimes-tu ?» Et lui annoncera comment lui aussi il glorifiera Dieu dans sa mort. Le ressuscité confiera à ses apôtres la mission de remettre les fautes.
Recevez le souffle de sainteté. Ceux à qui vous remettez les péchés, ils seront remis.
Remettre les péchés ne peut pas se faire si on n'aime pas gratuitement jusqu'au pardon. Et pour cela, il faut parfois livrer sa vie comme Jésus. On ne comprend donc le sens de la croix qu'en vivant ce que la croix signifie. Qui veut sauver sa vie la perdra, mais qui perd sa vie à cause de moi la sauvera. La croix nous apparaît spontanément comme un symbole de souffrance et de mort, parce que nous ne voyons pas son lien avec la force d'amour dans le cœur de celui qui la porte, et sans laquelle elle n'a pas de sens. Oui, la croix n'a pas de sens sans la force de l'amour de Dieu. Écoutons ce qu'en dit Maurice Zendel.
La croix est le berceau de l'amour. C'est pourquoi elle est si belle, l'arbre de vie. C'est pourquoi il ne faut jamais la séparer de l'amour. Autrement, elle n'est que du bois mort.
Oui, ce n'est pas la souffrance en elle-même qui nous sauve, mais c'est l'amour, et seulement l'amour. Alors, pourquoi la croix ? Thérèse d'Avila disait, « Aimer, c'est souffrir beaucoup pour ceux qu'on aime. » Et Aragon, « Il n'y a pas d'amour qui ne soit à douleur. » Mais ne prenons pas les choses à l'envers. De la souffrance seule, on ne fera jamais jaillir une once de générosité. C'est parce que Jésus m'a aimé qu'il s'est livré pour moi, comme le disait l'apôtre Paul. Si un cœur est rempli d'amour, alors il ne calcule plus les risques et il est capable de sacrifier tant argent, réputation, pour faire jaillir la vie, pour communiquer la vie. Il n'est pas toujours facile de croire au pardon et à sa force de guérison. Mais pourtant, malgré tous les blocages, les refus, les égoïsmes, les trahisons, celui qui aime comme Jésus ne désespère jamais de la force de l'amour. Il est nécessaire au pardon d'être animé par cette qualité d'amour dont parle Paul dans sa lettre aux Corinthiens. L'amour excuse tout, il croit tout, il espère tout, il endure tout. Ainsi, la résurrection de Jésus n'est pas d'abord comme une sorte de preuve de sa divinité. Elle n'est pas un événement spectaculaire parce que notre foi aurait besoin de sensationnel. La résurrection est l'aboutissement de sa vie d'amour. Elle est l'éclatement de cette vie, comme la naissance du vivant qui surgit des douleurs de l'enfantement.
Lorsque la femme enfante, elle est dans l'affliction. Mais lorsqu'elle a donné le jour à l'enfant, elle est toute à la joie d'avoir mis un être au monde.
La résurrection n'est pas non plus quelque chose qui concernerait Jésus seul. Elle est la source quotidienne à laquelle nous pouvons venir puiser, et la vie et l'amour, puiser la force de renaître chaque fois que l'égoïsme a éteint en nous ce qui fait vivre, ce qui fait de nous un vivant, c'est-à-dire la bonté et la générosité. On ne peut être témoin de la résurrection de Jésus qu'en cherchant sans cesse le vivant, et en le cherchant non dans le souvenir, mais en actualisant la parole de Jésus, qui perd sa vie, sauve son amour. Oui, le mystère de la résurrection, c'est le mystère de notre propre vie, et non pas seulement au dernier jour, mais aujourd'hui et à tous les instants. C'est aujourd'hui qu'il me faut ressusciter, c'est aujourd'hui qu'il faut entrer dans ce mystère qui va transformer toute notre vie, pour que le mystère de Jésus, que la résurrection de Jésus nous apparaisse en effet comme un moment essentiel de l'histoire humaine et de la nôtre. C'est aujourd'hui que sa parole doit me faire vivre, parce que j'essaie d'aimer comme lui et avec lui. La résurrection est l'aboutissement de notre communion au Père divin. Elle est la plénitude de notre humanité telle que Dieu l'a voulu. Elle ne peut certes se manifester qu'au-delà de la mort, se manifester pleinement, mais elle se prépare lentement et secrètement dans le quotidien de notre vie. Tout acte de véritable amour, tout acte de bonté, de générosité, est un acte divinisé, inspiré par Dieu, et c'est cela qui prépare notre résurrection. Terminons par ces quelques lignes de Maurice Zendel.
Les derniers mots de Jésus, ce n'est pas d'aimer Dieu, c'est d'aimer l'homme. En Jésus, il y a la passion de l'homme jusqu'à la mort de la croix. Jésus sait que tout est perdu, que Judas l'a vendu, que Pierre va le renier, que Jean va s'endormir, que tous vont s'enfuir. Mais il sait aussi que le royaume de Dieu n'est nulle part ailleurs que dans l'homme. L'homme ouvert, transparent, généreux, l'homme qui laisse passer à travers lui toute cette vie de Dieu, dont toute conscience humaine porte à son issue le trésor. C'était Du pain sur la table, une émission de l'École de la foi de Montréal. Si vous désirez le texte de l'émission La cassette audio, téléphonez au numéro 514-256-4110.
256-4110. Vous nous trouverez également sur Internet à l'adresse www.relaismontroyal.com. Relais Mont-Royal en un seul mot et sans trait d'union. relaismontroyal.com. Téléphonez-nous, nous vous donnerons également les tarifs pour des abonnements de 3 mois ou 6 mois, soit au feuillet, soit aux cassettes de l'émission.
Du pain sur la table est diffusé le samedi à 8h30 et en reprise le dimanche matin à 5h30. Choix musical et enregistrement, Jean Béduchaud.
Chers auditeurs et auditrices, bonne fête de la résurrection. À la semaine prochaine, ne laissons pas le pain sur la table sans en faire notre nourriture.